Voilà, bonsoir. Je commence par deux extraits du livre des Proverbes et puis nous prierons la prière de Salomon pour demander la sagesse. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses sept colonnes. Elle a tué ses bêtes, elle a mêlé son vin et même elle a dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes, elle a crié son invitation sur les hauteurs de la ville. Y a-t-il un homme simple qu'il vienne par ici? À qui est dénué de sens, elle dit, allez manger de mon pain, buvez du vin que j'ai mêlé. Abandonnez la niaiserie et vous vivrez. Puis marchez dans la voie de l'intelligence. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse et l'intelligence est la science des saints. Dame folie est tapageuse, niaise et n'y entendant rien. Elle s'assied à la porte de sa maison sur un siège sur les hauteurs de la ville pour interpeller les passants qui vont droit leur chemin. Y a-t-il un homme simple qu'il vienne par ici ? À qui est dénuée de sens, elle dit, les eaux dérobées sont douces et les mets clandestins délicieux. Or, il ne sait pas que là se trouvent les ombres, que ceux qu'elle invite sont au fond du séjour des morts. Contraste, dame sagesse, dame folie. Et maintenant la prière de Salomon pour demander la sagesse. Dieu de mes pères et Seigneur de tendresse, tu as fait l'univers par ta parole, formé l'homme par ta sagesse, pour qu'il domine sur les créatures appelées par toi à l'existence, pour qu'il gouverne le monde avec piété et justice, et qu'il rende ses jugements avec droiture d'âme. Donne-moi la sagesse qui partage ton trône, et ne m'exclus pas du nombre de tes enfants. Vois, je suis ton serviteur et le fils de ta servante, un homme faible et dont la vie est brève, bien démuni dans l'intelligence du droit et des lois. Du reste, quelqu'un serait-il parfait parmi les fils des hommes ? Sans la sagesse qui vient de toi, il sera compté pour rien. Près de toi se tient la sagesse qui connaît tes œuvres et qui était présente lorsque tu créais le monde. Elle sait ce qui est agréable à tes yeux, ce qui est droit selon tes commandements. Fais-la descendre des lieux saints, du trône de ta gloire, daigne l'envoyer pour qu'elle peine à mes côtés et que je connaisse ce qui te plaît. Elle qui sait et comprend tout, elle me guidera dans ma conduite avec mesure, et elle me protégera par sa gloire. Ainsi mes actes pourront être agréés, je jugerai ton peuple avec équité, et je serai digne du trône de mon Père. Seigneur, tu nous partages ta sagesse en nous parlant au cœur, en parlant à notre intelligence, surtout en nous envoyant ton Fils Jésus-Christ pour nous donner l'Esprit Saint. Ouvre nos oreilles et notre cœur à sa présence, à son enseignement, que nous puissions te rendre gloire dans les siècles. Amen. Voilà, en lisant les extraits que j'ai proposés pour ce soir, vous avez dû vous rendre compte que nous sommes dans un tout autre genre littéraire que celui du don de la loi, que celui des livres historiques et que celui des imprécations des prophètes pour nous secouer. Le style de la sagesse. Nous connaissons tous des proverbes et des dictons. J'aurais voulu en retrouver quelques-uns, mais je n'ai pas eu le temps. Il y en a de très savoureux comme ça dans le livre des proverbes. Par exemple, le paresseux se retourne sur son lit comme la porte sur ses gonds. Ça, c'est le style de la sagesse. Ça vous fait sourire. Va voir la fourmi paresseuse. Bon. Donc, ce sont des phrases courtes, des rimes, et souvent avec des contrastes. Et ils constituent une forme d'enseignement, de transmission de sagesse populaire, différente de ce qui vient des universités. Ce sont les pères de famille eux-mêmes qui ont inventé ces proverbes pour transmettre une sagesse à leurs enfants, ou les mères de famille aussi. Ces proverbes aiguisent en même temps une certaine perspicacité, parce qu'un proverbe ne livre pas son sens tout de suite. Quand on entend pour la première fois « à bon chat, bon rat », on ne comprend pas nécessairement ce que ça veut dire. Un chat qui est très bon pour attraper des souris peut avoir affaire à un rat qui est plus fort que lui. À bon chat, bon rat. Ou quand j'étais petit, j'entendais cette phrase « à malin, malin et demi ». Bien comme enfant, je ne comprenais pas. J'ai mis longtemps à comprendre que si quelqu'un est malin, il peut trouver quelqu'un qui est une fois et demi plus malin que lui. Voilà. À malin, malin et demi, il y a une énigme dans la formulation et ça fait travailler l'intelligence. Les proverbes peuvent aussi être contradictoires. Par exemple, un proverbe dit « tel père, tel fils ». Il y en a parmi vous qui connaissent mon père et ils savent bien que je suis son fils. Tel père, tel fils. Il y a une ressemblance, pas seulement physique et dans les attitudes, mais dans les manières de réfléchir, etc. Mais un autre proverbe dit « à père avare, fils prodigue ». Si on a eu un père dont on a regretté tel ou tel défaut, on essaie de développer l'attitude inverse. Et les deux peuvent être vrais en même temps, mais évidemment sur des qualités différentes ou sur des défauts différents de ses parents. Avec le proverbe et avec des proverbes contradictoires, on est amené à réfléchir, à voir ce que dit, à voir le dit de sagesse qui s'ajuste à une situation et pas à une autre. Tel père, tel fils, c'est pas toujours. À père avare, fils prodigue, c'est pas toujours. Il faut savoir quand ça s'adapte. Il y a donc un développement personnel de la réflexion dans la vie qui se fait. Les proverbes existent dans toutes les cultures, que je sache. Ils ne sont donc pas une invention d'Israël. On a des recueils de proverbes égyptiens qui datent de 3000 avant Jésus-Christ. Une sagesse qui a 5000 ans d'âge. Tu vois, notre père indien dans le fond, là, il y a des proverbes indiens au moins aussi anciens que ça et sans doute même davantage. Donc, bien avant que les Hébreux aient commencé à raconter la Bible, ou encore moins à écrire, puisque bien avant Abraham. Et donc, je parle d'abord de la sagesse des peuples environnants. Les sagesses qui entourent Israël, la sagesse égyptienne au sud, la sagesse mésopotamienne à l'est, la sagesse hellénistique au nord. Ce n'est pas par hasard que je vous parle de la sagesse égyptienne, de la sagesse mésopotamienne et de la sagesse hellénistique. C'est parce que les livres de sagesse dans la Bible sont ceux du contact avec le monde extérieur. Bien sûr, les livres historiques, l'Exode, racontent le contact avec l'Égypte, mais ce n'est pas tellement un contact positif. Et les prophètes parlent au peuple. Ils ne parlent guère des autres peuples, et en tout cas ils ne s'adressent pas aux autres peuples. Tandis que les livres de sagesse sont ceux vraiment du contact avec le monde extérieur. À ce titre-là, ce sont des livres qu'on pourrait dire pré-messianiques. Ils sont une anticipation de l'œuvre messianique qui est de faire déborder sur les nations les dons reçus par Israël. Ces livres montrent qu'Israël n'est pas un peuple fermé sur lui-même, par sa vocation par Dieu, mais un peuple qui non seulement doit donner sa lumière aux autres peuples, ça c'est sa vocation, mais qui reçoit aussi des autres peuples, qui peut intégrer ce que Dieu fait en dehors d'Israël, en particulier acquérir cette sagesse. Donc la sagesse, c'est un lieu d'universalité. Alors, je présente maintenant la sagesse égyptienne. La forme essentielle de la sagesse égyptienne, c'est l'enseignement. Bon, ça n'a l'air de rien parce qu'ici, vous subissez mon enseignement chaque semaine. Les étudiants réguliers subissent de l'enseignement 5 jours par semaine. C'est donc devenu une forme commune, institutionnalisée dans nos pays. Mais il faut se rendre compte qu'il y a 5000 ans, ça n'était pas comme ça. Et donc, l'enseignement est une forme de transmission du savoir, où quelqu'un qui a appris quelque chose par lui-même le transmet à d'autres sans que l'autre doive refaire toutes les expériences lui-même. C'est essentiellement une sagesse qui se transmet de père à fils au départ. Comme dans les proverbes repris par Israël, dans la sagesse égyptienne, il y a souvent l'apostrophe « Écoute, mon fils ». Et soit c'est un père qui dit de se méfier des femmes trompeuses, soit de se méfier des gens puissants. Proverbe égyptien, quand un prince te demande quelque chose, sois prudent avant de répondre. Soit le père enseigne à son fils des manières de se débrouiller. Les proverbes ont commencé à être recueillis et les formes d'enseignement autres que les proverbes, notamment le savoir-faire technique, par exemple, le savoir-faire d'un architecte, d'un potier, d'un orfèvre, tous ces savoirs ont été accumulés à la cour des rois. Donc les pharaons ont eu un rôle important dans le rassemblement de ce qui était sagesse d'un peuple. Et la sagesse, donc, c'est à la fois l'art de vivre et les techniques. C'est évident que ceux qui avaient la charge de gouverner ont rapidement voulu rassembler le savoir existant pour pouvoir en faire un instrument de gouvernement. La sagesse égyptienne est liée à la cour du pharaon et c'est pourquoi elle transmet souvent un respect de l'ordre social. Quand la sagesse est retravaillée par le prince, le pharaon, elle va inculquer le respect du prince. Il faut respecter les hiérarchies sociales. Et en même temps, comme Israël va le reprendre, il y a l'intuition que l'ordre social est lié à l'ordre cosmique. Ce point se trouve dans toutes les sagesses du monde. Une cité bien gouvernée ressemble à la nature qui est bien gouvernée. Dieu a mis des lois qui font qu'il y a justement un ordre, ce n'est pas une anarchie permanente dans la nature. Je rappelle l'exemple permanent de mon enseignement, les fraisiers donnent des fraises. Bon, pour vous c'est banal, mais chaque fraise est un miracle. Les fraisiers donnent des fraises, on peut attendre ça d'un fraisier, il y a un ordre stable sur lequel on peut s'appuyer. Le bois a ses qualités, on peut l'utiliser pour faire du feu, pour faire des choses dures. Il y a des bois plus souples qui se laissent sculpter. Le métal a sa souplesse ou sa rigidité. Il se laisse travailler ou il sert à se battre ou à construire des choses. Tout cela témoigne que la nature est fiable. Il y a un ordre en elle. Et on ne doit pas s'attendre tout à coup à trouver des bananes à Wépion. Donc, les choses sont dans un fonctionnement au moins globalement harmonieux, même si on peut regretter sa petite souris qui est mangée par un chat. Cette sagesse égyptienne de cour, qui lie l'ordre social à l'ordre cosmique, va évoluer avec le temps, se détacher un peu de la cour et devenir plus une sagesse de vie, plus familiale ou plus clanique, où on apprend à goûter le sens des choses de la vie, du quotidien. La sagesse des proverbes est partie du quotidien et elle revient au quotidien. Et on voit déjà cela dans cette sagesse égyptienne donnant des conseils de ne pas se fier au roi pour espérer le bonheur. Ça, c'est pas un proverbe de cour royale, un proverbe familial. Cette sagesse familiale enseigne une attitude intérieure de soi-même vis-à-vis du monde, vis-à-vis des dieux, vis-à-vis de l'ordre naturel, attitude qui va assurer le bonheur. La piété personnelle, ce n'est pas la piété devant le Dieu unique, mais la piété personnelle enseignée dans ce respect des dieux et du monde créé, devient un chemin de bonheur. Et pas mal d'éléments de cette sagesse vont être intégrés dans la sagesse d'Israël. Mais assez peu la sagesse qui glorifie l'ordre social. Parce que le peuple a fait l'expérience de l'exil, l'échec de la royauté. Donc, cette expérience de l'exil dans l'histoire du peuple, est vraiment capitale pour rendre sage. Le nombre de fois dans le livre des rois où on voit quand le nouveau roi arrive, c'est comme quand il y a un nouveau pape, c'est le Messie, tout va aller mieux. Et puis, dans le livre des rois, quelques lignes après, je ne dis pas ça du nouveau pape, mais des rois d'Israël, on dit, et finalement, il fit comme ses pères et il devint adultère. Donc, on se méfie assez des espérances politiques dans la sagesse d'Israël. Et cela fera une sélection. Je passe maintenant à l'Est, la sagesse mésopotamienne, qui est plus récente que la sagesse égyptienne, mais quand même, qui date de 2000 à 1500 avant Jésus-Christ. La sagesse mésopotamienne est moins une sagesse proverbiale intrafamiliale, elle vise beaucoup à connaître la magie et les pratiques cultuelles. Il y a en effet une sagesse, enfin une sagesse apparente des pratiques superstitieuses. Comment est-ce qu'on amadoue tel dieu pour avoir tel bienfait? La magie, c'est de vouloir utiliser des pouvoirs que seuls connaissent certains pour obtenir des choses. Dans la sagesse mésopotamienne, apparemment plus que dans la sagesse égyptienne, je brosse à très gros traits évidemment ici, on a aussi la sagesse qui s'exprime sous forme d'énigme. Une énigme, c'est une histoire qui est difficile à comprendre, où on doit réfléchir. Alors j'emprunte l'énigme à la sagesse grecque, c'est l'énigme du sphinx qui pose la question, quel est l'animal qui marche à quatre pattes le matin? À deux pattes à midi et à trois pattes le soir. Eh bien, quand on entend cette énigme et quand on ne connaît pas la réponse, avant qu'on la trouve soi-même, cela demande de la réflexion et de l'observation. Donc, pour ceux qui ne la connaissaient pas, la réponse c'est l'homme, puisqu'il commence sa vie à quatre pattes, il marche sur ses deux jambes quand il est adulte et à trois pattes avec son bâton quand il est vieux. On voit ce qu'est une énigme. Elle fait réfléchir. Mais aussi, l'énigme fait attendre une réponse de la vie. Quand on a reçu une énigme, on la porte avec soi. Et ce style littéraire existe jusque dans le Nouveau Testament. Il y a des passages de l'évangile de Jean qui sont clairement des énigmes, et qui s'éclaire tout à coup dans notre vie en vivant une expérience donnée. On pourrait dire de beaucoup de passages bibliques que la lumière qu'ils portent en eux n'est que partielle et comme en attente d'un événement historique. Tant que ces passages sont uniquement dans leur contexte livresque, on comprend bien un petit quelque chose, mais on ne voyait pas où Dieu voulait en venir. Et nous retrouverons ça dans la sagesse que nous verrons la semaine prochaine. Par exemple, bienheureux les pauvres. Qui peut me dire qu'il a définitivement compris cette phrase? Et pourtant, il y a des événements de notre vie où ça fait flash comme une lumière qui éclaire du levant au couchant. Et on se dit, Jésus avait raison. Voilà. L'énigme. Dans la sagesse mésopotamienne, on trouve des énigmes, des dialogues aussi, c'est une manière de transmettre la sagesse, des débats et des préceptes moraux. Vers la fin du deuxième millénaire, donc vers 1200 000 avant Jésus-Christ, apparaît une réflexion nouvelle en Orient, c'est la réflexion sur le juste souffrant. Donc, vous savez que Job, dans la Bible, n'est pas un juif, ce n'est pas un membre du peuple d'Israël. C'est un personnage importé, précisément importé de la littérature mésopotamienne, avec toute une réflexion sur le contraste entre le juste souffrant et le fameux ordre du monde qui est censé faire du bien à tous. Le contraste amène à une réflexion plus profonde sur ce que peut être la justice divine. Et je crois que le livre de Job, en particulier, est l'énigme qu'on porte avec soi, qu'on relit en s'en inspirant dans la souffrance, mais qui attend quand même que ça fasse un déclic qui vient d'ailleurs. Mais l'avantage du livre de Job, c'est qu'il nous prépare à attendre ce déclic. Voilà, je viens maintenant à la sagesse du Nord, la sagesse hellénistique. Donc je rappelle qu'entre le 6e et le 4e siècle avant Jésus-Christ sont apparues les écoles philosophiques en Grèce. L'école de Socrate d'abord, puis de Platon et d'Aristote, et puis d'autres qui sont vus dans les cours d'histoire de la philosophie. On voit bien que là, la sagesse ne reste pas fragmentaire, parce que tout ce que je vous ai dit jusqu'ici, même quand c'est rassemblé à la cour du pharaon, ce sont comme des livres accumulés. On a le département poterie, le département sculpture, le département architecture, le département proverbe, mais tout cela ne cherche pas à s'articuler. Tandis qu'avec la sagesse hellénistique, les proverbes et les sciences accumulées commencent à s'organiser dans des tout théoriques. Des théorisations qui nous construisent. Je m'en suis rendu compte quand je suis allé en Inde, tous les Occidentaux pensent comme Aristote. Ils ne le savent pas, bien entendu. Si vous demandez à votre boucher, vous connaissez Aristote? Il vous demandera, c'est un restaurant? Mais notre manière de penser la réalité en Europe est scientifique ou pré-scientifique à cause d'Aristote. C'est devenu central dans la culture occidentale. Et c'est en allant en Afrique ou en rencontrant des Africains ici qu'on se rend compte que les siècles qui ont façonné leur intelligence n'ont pas connu Aristote. C'est un autre type de sagesse en Afrique, un autre type d'être au monde. Et je peux dire que quand j'étais à l'Institut Lumen Vitae, les étudiants du Proche-Orient sont ceux que je comprenais le moins. C'est pourtant proche. Mais avec certains Libanais ou certains Syriens, je ne voyais pas où ils voulaient en venir quand ils parlaient. Pourtant, ils savent très bien comment amener quelqu'un à penser quelque chose. Donc, quand j'étais en Inde aussi, évidemment, l'Inde, c'est pas Aristote. Il y a d'autres sources de sagesse qui ont structuré l'esprit. Alors cela n'empêche pas tous ces peuples africains, proche-orientaux, indiens et autres d'accéder à la science moderne, d'accéder à la science moderne avec sa rigueur, ses vérifications, sa rationalité exprimée sous forme mathématique ou statistique, donc la science telle que nous l'avons développée. Mais ils intègrent la science à leur manière de penser, comme un moyen technique en plus. Mais ils ne pensent pas pour autant comme nous pensons. Voilà donc Aristote. Vous ne saviez pas que vous étiez aristotélicien. Voilà, découvrez-le. Alors, avant l'apparition des écoles philosophiques, la sagesse grecque se transmettait surtout dans les épopées. C'est un autre mode de transmission. Donc l'histoire d'Ulysse, la guerre de Troie. Dans ces grandes histoires légendaires, contenant parfois des éléments historiques vrais, on raconte ce que font les héros, et les héros nous apprennent à vivre. Tous, nous avons reçu un enseignement énorme par les histoires que nos mamans, nos pères ou nos grands-parents nous ont racontées avec des héros. Voilà. Les milieux de transmission de la sagesse sont donc la famille, les écoles de cours en particulier, les écoles des philosophes. Évidemment, la sagesse transmise à la cour peut dégénérer en habileté politique. Savoir comment s'y prendre avec ceux qui sont haut placés. Ce n'est plus vraiment une sagesse de vie, cela devient une sagesse technique, une sagesse utilitaire. Et on n'est jamais à l'abri. Mais je passe maintenant à la sagesse biblique en prenant les personnages que j'ai déjà fait attendre plusieurs fois, Esdras et Néhémie. Donc dans l'histoire de la transmission de la sagesse, une catégorie nouvelle va apparaître à un moment. Ceux qui enregistrent cette sagesse et se mettent à l'écrire. Le rôle des scribes est une étape capitale dans l'évolution de la sagesse. C'est ce qui me permet de revenir à Esdras et Néhémie, donc qui font partie dans la Bible juive des écrits. Donc, dans notre Bible à nous, qui est basée sur la Septante, donc la traduction en grec, ils figurent dans les livres historiques. Esdras et Néhémie sont ceux qui vont restaurer le culte à Jérusalem après le retour d'exil, donc vers 530, lorsque l'édit de Cyrus donne autorisation aux Juifs d'aller reconstruire leur temple et leur ville à Jérusalem, et même de pouvoir le faire sur les impôts perçus dans le pays. Esdras est un prêtre scribe et Néhémie un gouverneur. Donc si vous vous rappelez le passage que j'ai lu au début de la séance précédente, on voit que Néhémie fait proclamer la loi devant tout le peuple. La loi est lue. Les prophètes ne lisaient pas. Ils parlaient immédiatement de ce qu'ils avaient reçu dans le cœur, où ils illustraient leur situation par des énigmes mimées, et puis ils parlaient. Ici, la loi est lue, et si vous vous rappelez, elle est lue en hébreu, mais tout le monde ne comprend plus l'hébreu, parce que la population revient de Babylone. C'est pourquoi elle est traduite par les Lévites, pour être comprise. L'événement raconté est un tournant capital dans l'histoire d'Israël. D'ailleurs, dans la Bible où j'avais pris l'extrait, le titre était « Le début du judaïsme ». Le début du judaïsme. Pourquoi ? Auparavant, la parole de Dieu venait soit par Moïse, qui l'avait dite, puis écrite ou gravée, soit par les prophètes, mais par des paroles vivantes. À partir d'Esdras et de Néhémie, c'est la parole écrite qui devient la parole prophétique. J'ouvre la Bible, Dieu me parle. C'est une étape très importante, j'espère que vous l'avez vécue, sinon vous allez la vivre. Mais c'est celle de vous rendre compte que ceci est la parole de Dieu. Je la lis, Dieu me parle. Ça n'a l'air de rien si vous avez l'habitude, mais c'est extraordinaire. Il n'y a pas qu'Israël qui doit faire cette expérience, nous aussi nous devons nous rendre compte du trésor qui nous est livré. Comme ça, noir sur blanc, sur des pages. Les scribes ont été à la charnière de ce passage capital où la parole de Dieu prophétique est celle d'un écrit qu'on va pouvoir lire et recevoir ensemble comme parole de Dieu. D'où l'alliance entre la liturgie et la transmission de la loi. Le judaïsme, c'est le début du judaïsme, donc c'est quand justement la liturgie va tourner autour de la parole écrite et lue et comprise. C'est dans la liturgie que la parole est dite parole de Dieu, c'est pas dans la librairie. Comme nous le disons après la première lecture à la messe, parole du Seigneur. Voilà donc étape capitale qui fait que il y a une tradition écrite qui s'accompagne nécessairement d'une tradition orale. S'il n'y a pas une tradition orale pour dire que ceci est la parole de Dieu, ce sera un livre parmi d'autres. Et donc, il faut commenter la parole écrite. Mais comment un écrit d'il y a 2000 ans pourrait-il avoir une importance aujourd'hui? Il faut un peu de sagesse pour le dire. C'est l'homélie. Voilà. Alors, dans la sagesse biblique, donc Esdras-Néhémie, c'est le tournant par le passage à l'écriture qui devient parole prophétique accompagnée d'une parole orale. Mais Esdras et Néhémie ne sont pas des livres de sagesse comme tels. Donc les livres de la sagesse biblique, vous les avez sur la feuille de route là, c'est Job, les psaumes, les proverbes, Kohélète. Donc Kohélète, ça vient du verbe ka'al en hébreu, ça veut dire rassembler. Kohélète, c'est la rassembleuse. Donc, en grec, une assemblée, c'est une ecclésia, qui a donné le mot église. C'est pourquoi Kohélète s'appelle l'ecclésiaste, celui qui fait le rassemblement. Il le fait de façon bizarre, parce que Kohélète, donc, c'est un auteur sacré. Dieu nous parle à travers lui, mais c'est un fameux dépressif. Alors, le cantique des cantiques. La sagesse, le livre de la sagesse qui porte alors là son nom, et le Siracide qui est appelé ecclésiastique, ça n'a rien à voir avec l'ecclésiaste, c'est parce que le Siracide est dans les livres retenus par l'Église catholique, et c'est pour ça qu'il est appelé ecclésiastique, appartenant à l'Église, alors que les Hébreux ne l'ont pas gardé dans le canon de leurs Écritures. Ces livres sont donc d'époques très différentes, en particulier les psaumes qui sont presque impossibles à dater. Enfin, parfois on peut dire avant l'exil, après l'exil, mais pas beaucoup plus. Les plus récents sont le Siracide et la Sagesse. La Sagesse est du 1er siècle avant Jésus-Christ, peut-être même la rédaction finale du temps de Jésus-Christ. Les proverbes, je vous ai dit, il y en a qui viennent de 5000 ans avant Jésus-Christ. Job, les premières histoires mésopotamiennes de 1200 avant Jésus-Christ. Donc on a là un spectre très très large, parce que la sagesse, c'est pas seulement l'universalité dans l'espace, mais c'est aussi l'universalité dans le temps. Alors, je vais faire ici un petit excursus sur la Bible hébraïque, la Bible grecque et notre Bible. Donc dans la Bible hébraïque, ces livres appartiennent à ce qu'on appelle les écrits. Donc les ketuvim. Ketav, c'est écrire, ketuvim. Donc il y a trois parties dans la Bible hébraïque. La Torah, les Neviim, donc les prophètes, et les autres écrits, les ketuvim des écrits. Donc,
quand les Hébreux parlent de la Bible complète, ils parlent de la Tanakh. Donc c'est un acrostiche, une acrostiche. Mais Tanakh, ça veut dire sandale. Donc le mot existe en hébreu, voilà, il joue là-dessus. Alors, quels sont les Ketuvim chez les Juifs, donc les autres écrits? Mais ce sont les livres que je viens de mentionner, avec en plus Esdras et Néhémie, qui chez eux figurent parmi les écrits, tandis que chez nous ils sont dans les livres historiques, et aussi le livre des Lamentations, qui chez nous figure dans les écrits prophétiques à la suite de Jérémie, à qui ces Lamentations sont attribuées. Alors, nos Bibles sont basées non pas sur la Bible hébraïque, les Bibles catholiques, mais sur la Septante, donc la traduction grecque de la Bible. Et dans ce cas-là, il y a aussi trois parties, les livres historiques, les prophètes et les écrits de sagesse. Alors, Esdras et Néhémie, donc, sont dans les livres historiques dans nos Bibles. Alors, les écrits proprement sapientiels, parmi les livres que vous avez sur la feuille de route là, sont surtout les cinq que j'ai soulignés, donc Job, les Proverbes, Kohelet, la Sagesse et le Siracide. Donc les psaumes sont un genre particulier, puisqu'ils sont essentiellement, enfin ils sont tous des prières, et le Cantique des Cantiques n'est pas un recueil de proverbes. Il a quelque chose d'énigmatique, d'interprétable en tout cas, mais il n'est pas tout à fait du même genre que les autres. Alors, ces livres de sagesse contiennent aussi par-ci par-là des prières, hein, comme les psaumes, mais ce n'est pas leur matière propre. Alors, du livre du Siracide, au point de vue historique, il faut dire que donc, le livre du Siracide appartient à la Bible grecque, c'est pour ça que nous l'avons dans nos Bibles à nous. Mais on a retrouvé plus tard, enfin même très récemment, des fragments en hébreu, hein, notamment dans les manuscrits de Qumran. Parfois plus anciens que le grec, parfois moins. Mais les Hébreux ne l'ont pas gardé, les Juifs ne l'ont pas gardé dans leurs écrits canoniques, au moins après la destruction de Jérusalem. Il semble pourtant bien avoir été lu dans les synagogues, à Alexandrie notamment, et il est fort probable qu'ils aient lus au temps de Jésus, au moins des extraits. Alors, pour Israël, le prototype de la sagesse, c'est Salomon. Alors, il faut lire les commentaires des rabbins au cours des temps sur Salomon. Salomon est tellement le prototype de la sagesse que on lui pardonne tout. Donc, y compris ses 60 concubines, et surtout qu'il est passé à l'idolâtrie à la fin de sa vie en permettant à toutes ses concubines et ses femmes d'offrir des sacrifices à leur Dieu et parfois de s'y mêler lui-même. Mais c'est le roi sage. Alors d'où vient cette amplification autour de Salomon? Mais c'est au premier livre des rois, il y a le songe de Gabaon. Donc Salomon fait offrir des sacrifices sur plusieurs hauts lieux. Alors le titre haut lieu reste énigmatique. On ne sait pas trop si c'est des cultes idolâtriques ou si c'est des lieux haut placés où il y avait un culte au Dieu d'Israël. Mais il va surtout à Gabaon, qui est un lieu central où il offre des holocaustes. Et dans la nuit, il fait un songe où le Seigneur lui dit « Demande, que puis-je te donner ?» Et Salomon pouvait demander la richesse, une longue vie, la victoire sur ses ennemis. Mais la seule chose qu'il demande, c'est la sagesse. Il demande de pouvoir gouverner son peuple avec sagesse. Et c'est de là donc que vient cette tradition qu'il est celui qui a reçu le plus de sagesse, puisqu'il l'a reçu immédiatement de Dieu qui voulait tout donner. Mais à partir de là, on attribue à Salomon la rédaction des proverbes. Proverbes de Salomon et de David aussi, deux rois d'Israël. Ce qui fait que la sagesse hébraïque est aussi une sagesse royale, comme celle des autres peuples. On lui attribue Kohelet, on lui attribue le livre de la sagesse et le cantique des cantiques. Donc selon les légendes rabbiniques, Salomon aurait écrit le cantique des cantiques dans la fougue de sa jeunesse, quand il était amoureux. Je trouve qu'il y a trop de sagesse dans ce livre pour que ce soit écrit par un jeune homme, mais enfin. Puis, pendant la période de sa royauté, il aurait écrit le livre de la sagesse et recueilli les proverbes, et à la fin de sa vie, il aurait écrit Kohelet. C'est évidemment strictement impossible, puisque le livre de la sagesse est du 1er siècle, avant Jésus-Christ, mais Salomon n'a pas pu écrire en grec au 1er siècle, alors qu'il a vécu en 900 avant Jésus-Christ. Ce n'est pas grave. De même que les écrits d'Isaïe, qui s'étalent sur plus de 400 ans, ne peuvent pas être attribués à un seul auteur. Il y a une sagesse à attribuer au même auteur une même veine prophétique, ou ici une même veine de sagesse. Ce n'est pas déraisonnable. Le père Beauchamp dit ceci à propos de la sagesse de Salomon. La sagesse consiste à connaître la loi de Dieu et l'ordre du monde pour agir en conséquence. Donc ça, c'est la sagesse, si vous voulez, en général. Celle de Salomon consiste à savoir gouverner, à connaître les secrets de l'univers, à pratiquer avec les autres nations l'échange des biens en l'absence de toute guerre. Voilà un aspect de la sagesse qui rejoint une sagesse de politique internationale, si on peut dire, qui est vraiment précieuse. Donc, pratiquer avec les autres nations l'échange des biens en l'absence de toute guerre. C'est ce qui honore son nom, puisque Salomon, Shlomo, c'est la paix, le roi de la paix. Alors, quel est l'enseignement moral des livres de sagesse biblique ? Comme ceci recueille les apports des peuples environnants, ce que je vais dire sera en partie une répétition des caractéristiques présentées précédemment. Comme on peut le deviner, l'enseignement des sages a une grande importance du point de vue de la morale en Israël, parce qu'il rejoint plus directement la vie de tous les jours. Les sages d'Israël bénéficient de deux sources. Ils sont à l'écoute de la loi et des prophètes, d'une part, et de la sagesse accumulée dans les proverbes immémoriaux et recueillis à la cour des rois des peuples voisins ou des peuples chez lesquels ils ont été en exil. C'est cette conjonction qui fait la spécificité de la sagesse biblique. Donc, c'est de n'avoir pas tout enfermé dans la loi et les prophètes, de s'être ouvert à autre chose, et c'est de ne pas s'être entièrement donné à cette autre chose, mais d'avoir gardé un enracinement dans la parole de Dieu. Mais à travers cela, ce qui est enseigné, c'est d'abord un art de vivre. Donc, l'alliance avec Dieu rencontre les situations les plus concrètes de l'existence quotidienne. L'apprentissage sous un maître, la relation de l'homme et de la femme, les relations entre les parents et les enfants, la relation du maître et de ses serviteurs, la vie de famille, la direction d'une maison, le travail, le commerce, la conversation, la table. Tout cela se retrouve dans, en particulier, le livre des Proverbes. Donc, un art de vivre au quotidien. Deuxième point, c'est la responsabilité de soi-même et le discernement. Les sages apprennent à leurs disciples que le sort de l'homme est totalement dépendant de sa propre pensée et de sa propre action. Comme je l'ai dit pour la sagesse égyptienne, le bonheur ne vient pas des rois ni des hommes politiques. Donc les sages d'Israël, tout en gardant leurs disciples sous la conduite de la loi, inculquent à discerner personnellement le bien et le mal. à juger d'une manière autonome, à réfléchir sur les motivations de nos actes. Donc on sort d'une morale où il suffit d'appliquer la loi. Réfléchir sur ses motivations. Peser les conséquences de ses actes. Alors, la responsabilité de l'homme est évidemment mise en avant et parfois tellement fort, si vous vous rappelez, que lorsque le père Radermakers nous a présenté Abraham et Noé et Abraham et les lois noachiques, il a montré que chez les Juifs, vraiment, c'est l'homme lui-même qui décide totalement de son sort, à la limite comme si Dieu n'allait plus intervenir. À la limite, bien entendu. Mais la responsabilité personnelle est mise en avant et c'est là que cet enseignement est le plus moral. Alors, des autres peuples, ils reprennent l'harmonie du réel. Le premier écrit dont je vous ai parlé dans ce cours, c'était le récit de la création. C'est typiquement un écrit de sagesse. C'est un écrit qui s'adresse à tous les hommes, qui leur dit ce qui concerne l'humanité entière et le monde donné à tous dans lequel ils vivent, qui est le même pour tous, un monde créé, ordonné, avec sa construction en 6 jours et une gradation dans les réalités matérielles et puis vivantes, et puis vivantes et animales, douées de sensibilité, etc. Et donc, pour être bon, l'agir doit non seulement correspondre à la loi enseignée, mais répondre à un critère de beauté. L'agir moral s'insère dans l'harmonie du monde, dans l'harmonie de la vie des peuples. Et cet ordre du monde trouve son origine en Dieu. Et ça va être si fort au contact de la sagesse grecque que dans la Bible, la sagesse va presque devenir une personne. Pour ceux qui ont lu les textes d'aujourd'hui, dans le Siracide 24, là, on voit que la sagesse est présentée comme quelqu'un qui partage le trône de Dieu. C'est inouï dans la culture hébraïque de parler comme ça, que les dieux grecs aient une épouse à côté d'eux, qu'on appelle une parèdre, quelqu'un qui partage le trône. C'était banal. Mais en Israël, où le Dieu est totalement unique, comment ont-ils été amenés à dire qu'il y a quelqu'un à côté de Dieu? Et c'est la perception que la sagesse, hein, elle est dite présente au jeu des hommes pour construire leur vie, se réjouissant de leurs ébats, comme si elle était quelqu'un qui vit avec eux, donc sur la terre si vous voulez, alors que Dieu, entre guillemets, reste dans le ciel. La sagesse est vraiment conçue comme la médiatrice entre Dieu et la création. Mais elle est divine. Dans la création, il y a quelque chose de divin. Alors, bien sûr, cette perception que les sages d'Israël ont exprimé et qui est tellement qui pourrait être tellement choquante par rapport au monothéisme, hein. Nous constatons qu'elle était là, cette perception, avant la venue du Christ, quoi. Mais c'est pas étonnant qu'après, quand le Christ a été révélé, a été reconnu fils de Dieu, on ait reconnu que la sagesse, au fond, c'est le fils de Dieu, quoi. Mais c'est vraiment important de garder cette étape où la sagesse est vraiment universelle avant d'être reconnue en une personne humaine qui est le Christ. Donc la sagesse est dite là dans le Siracide aussi comme créée avant toute chose. Parce qu'elle accompagne la création de toute chose, donc elle peut pas être une créature parmi les autres. Et en même temps, elle est dite créée. Dieu arrive à se défaire de quelque chose de lui-même, comme ça, à donner de la place à côté de lui à quelqu'un d'autre que lui. C'est quand même une introduction au mystère trinitaire assez bouleversante. Alors, dans les écrits de sagesse se trouvent aussi les vertus. Donc la sagesse, elle est recherchée, contemplée, aimée, mais auprès d'elle, d'autres vertus éclairent de leur lumière la route du juste. En particulier, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Commencement de la sagesse acquiert la crainte de Dieu. Et le Séracide de continuer, commencement de l'acquérir acquiert une femme. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'on ne peut acquérir quelque chose en sagesse que si on l'aime et si on se laisse aimer. La crainte de Dieu, la vérité, la justice, le droit, la bonté, la mesure, la sobriété, la discipline, donc toutes ces vertus qui ne sont pas des vertus propres à Israël, sauf la crainte du Seigneur, évidemment, qui a libéré d'Égypte, mais toutes les autres vertus sont partagées par les autres peuples. Et là, c'est dans le livre d'Isaïe qu'on trouve ça, mais les vertus cardinales vont se retrouver dans la sagesse d'Israël. Donc tous ces éléments montrent à quel point l'éthique est le lieu de rencontre de toute l'humanité. Je viens de le dire, les vertus cardinales des Grecs, la justice, la tempérance, la force et la prudence, donc la prudence c'est le jugement affiné, hein, ce n'est pas la précaution, sont reprises dans la Bible, mais sans oublier jamais la crainte et l'amour. Alors les sages de la Bible s'émerveillent de voir la profonde unité entre les œuvres du Seigneur qui les a libérés de l'Égypte et leur a donné sa loi, et les œuvres du Créateur de l'univers entier, présent à tous les peuples. Ils savent que la sagesse, présente partout, a établi sa demeure en Israël. Donc la sagesse s'étend avec force d'une extrémité du monde à l'autre et gouverne l'univers avec bonté. Sagesse 8.1. Ou autrement dit, où la sagesse est assimilée à l'esprit, l'esprit du Seigneur a rempli la terre. Sagesse 1.7. Donc, alors, je l'avais dit, bon, la morale des sages apparaît parfois très, très utilitaire, mais quand on dépasse les proverbes utilitaires ou les leçons trop utilitaires, on se remet au niveau de la sagesse qui dévoile, qui met en lumière ce qu'il y a d'universel dans les actes humains et leurs aspects infiniment variés et concrets. Donc la sagesse conjoint ces deux dimensions d'unité. Il y a quelque chose qui peut être dit qui concerne tous les hommes, et en même temps une perception d'une variété énorme des situations, des hommes, des époques, etc. Mais c'est le fait d'avoir une vision d'ensemble qui demeure une source de lumière pour la théologie morale aujourd'hui, lorsqu'on doit réfléchir à des situations nouvelles, hein, les fivettes ou la gestation pour autrui, etc. La Bible ne dira pas directement une réponse à ces questions, mais elle déploie une vision d'ensemble qui permet d'éclairer ces questions. Alors, vers la fin, donc dans le Siracide, la sagesse est identifiée avec la loi reçue de Moïse, ou avec le livre où celle-ci est consignée pour les siècles. Le Siracide, après avoir fait l'éloge de la sagesse, écrit « Tout cela, c'est le livre de l'alliance du Dieu Très-Haut, la loi que Moïse nous a prescrite. » Donc, audace, hein, de dire que la sagesse universelle, elle est concentrée dans la loi reçue de Moïse. Et Baruch, en Baruch 4.1, dit « La sagesse, c'est le livre des commandements de Dieu. C'est la loi qui existe pour les siècles. » Tous ceux qui s'attachent à elle iront à la vie, mais ceux qui l'abandonnent mourront. Bon, on avait déjà eu sa bénédiction, malédiction. Mais c'est parce qu'Israël combine vraiment la recherche de la sagesse et la méditation de la loi. Depuis Esdras-Néhémie, on peut méditer les écrits et progresser en sagesse. Voilà. Alors, cette bipolarité, donc de la spécificité du peuple qui a reçu une vocation de Dieu et de son devoir d'être présent à toutes les nations pour échanger avec elles, pas seulement pour donner la lumière reçue, mais pour recevoir d'eux de la lumière, pour pouvoir révéler que Dieu est à l'œuvre à l'extérieur, qui décrit donc la sagesse biblique. Alors, je vais terminer par les psaumes. Le lieu où la recherche de la sagesse, hein, sa méditation, et la crainte de Dieu, l'orientation vers Dieu par la foi et l'amour, se conjoignent, c'est la prière, en particulier la prière des psaumes. Et on sent dans les psaumes, en particulier dans le psaume 119, là, le plus long, la joie du juste de découvrir la sagesse dans la loi et la loi dans la sagesse. Alors, le début du psautier dit déjà cette joie en disant « Heureux l'homme qui se plaît à la loi du Seigneur et récite sa loi jour et nuit. » Or, c'est le psaume qui décrit justement le choix entre les deux voies. Le début du psautier, c'est un écrit de sagesse parce qu'il nous met devant un choix à faire. Mais déjà, heureux l'homme qui se plaît à la loi du Seigneur. Alors, entre le psaume 119 et le psaume 1er, il y a le fameux psaume 18 qui dit « La loi du Seigneur est parfaite, elle rend la vie. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils rendent joyeux le cœur. » Donc c'est cette expérience que fait le croyant que les enseignements du Seigneur à travers Moïse et à travers les prophètes conduisent à une vie qui rend heureux. Si Dieu s'est tellement occupé de son peuple et de lui donner une loi, etc., c'est vraiment parce qu'il vise le bonheur de l'homme. La question du bonheur est la question de l'éthique dans toutes les cultures, et elle le reste dans Israël. Alors je termine avec quelques versets du psaume 119. « Combien j'aime ta loi, tous les jours je la médite. Ta justice est la justice éternelle, et ta loi est la vérité. De toi, Seigneur, je désire le salut, et ta loi fait mes délices. Que je puisse vivre pour te louer, et tes décisions me viendront en aide. » Et cette vérité de la sagesse, hein, la fin du psaume 119, c'est vrai que tous les couplets du psaume 119 sont faits de 8 versets, à 2 sticks chacun, sauf le tout dernier où il y a un stick en plus, quoi. Et c'est ceci. Je suis errant comme une brebis perdue. Recherche ton serviteur, car je n'ai pas oublié tes commandements. C'est la merveille, hein, le chercheur de la sagesse qui comprend que l'essentiel, c'est de se laisser trouver. Recherche ton serviteur. Voilà, la semaine prochaine, nous découvrirons la nouveauté radicale apportée par la venue du Messie et la profonde continuité avec tout ce que nous avons vu qui fait qu'on peut parler avec lui d'un accomplissement.